VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Nouakchott, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. En Éthiopie, les chefs d'État des pays membres de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, une organisation est-africaine, discute aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie de l'envoi au Soudan du Sud d'une force régionale en vue de stabiliser le pays après une nouvelle flambée de violence. Anastasie Tudiech.
Le sommet, auquel ni le président Salva Kiir ni le vice-président Riek Machar ne participeront, doit notamment évaluer la faisabilité du déploiement de cette force au Soudan du Sud. Le Conseil de sécurité de l'ONU approuvera ou non la création de cette brigade d'intervention. La mission onusienne dans le pays, la MINUS, a été critiquée pour ne pas avoir réussi à endiguer les combats à Djouba début juillet entre partisans de Salva Kiir et de Riek Machar qui ont fait plus de 300 morts et au moins 60 000 réfugiés. Monsieur Kiir affirme quant à lui qu'il n'y a pas de combat à Djouba et il s'est farouchement opposé à l'envoi de nouvelles troupes étrangères, pendant que Riek Machar affirme que la sécurité est inexistante pour le moment à Djouba. Le Soudan du Sud est en proie à une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis décembre 2013.
Afrique du Sud battue à Port-Elisabeth et en ballottage à Pretoria, la ANC au pouvoir a subi de lourds revers lors des élections municipales. Nathalie Barge.
L'ANC reste le premier parti au niveau national, mais enregistre un fort recul avec 54,4% des voix, en baisse de 7 points par rapport à 2011. C'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que le parti de Nelson Mandela enregistre un score inférieur à 58% sur l'ensemble du pays. À Nelson Mandela Bay, la métropole qui englobe Port-Elisabeth, l'ANC est battu de plus de 6 points par l'Alliance démocratique, 40 contre 46,7%. Cette défaite pourrait être suivie par d'autres échecs à Johannesburg et à Tshwane, la métropole qui englobe Pretoria. Le dépouillement n'est pas terminé dans ces villes, mais l'ANC, au coude à coude avec l'Alliance démocratique, devrait perdre sa majorité absolue dans les deux municipalités. Clairement, nos électeurs nous ont envoyé des messages un peu partout et nous allons devoir les écouter avec attention, a reconnu le vice-président de l'ANC et de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.
Entre le Burundi et le Rwanda, les relations s'enveniment. Depuis hier, les véhicules de transport ne sont plus autorisés à franchir la frontière entre les deux voisins. Azuma Compaoré.
La police burundaise a confirmé que les véhicules de transport Volcano Yahoo Horizon en provenance du Burundi vers le Rwanda ne peuvent plus dépasser la frontière depuis hier à 8h GMT. La mesure est réciproque pour les véhicules venant du Rwanda vers le Burundi. Les véhicules de transport s'arrêtent à la frontière, les passagers descendent et traversent à pied pour prendre des voitures de l'autre côté. Les relations entre les deux petits pays voisins se sont détériorées depuis le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Bujumbura accuse Kigali d'abriter les opposants et les rebelles. Le Rwanda a toujours démenti et accuse le Burundi d'abriter des miliciens FDLR, ce que démentent les autorités burundaises.
En RCA, Francis Bozizé, fils de l'ancien président François Bozizé, interpellé par la police à Bangui après son retour au pays natal. Il n'est pas officiellement arrêté, mais seulement auditionné à la SRI, la section de recherche et d'investigation, selon une source proche de cette unité de la gendarmerie. On ignore ce qui est reproché à Francis Bozizé.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La lutte contre les djihadistes maintenant. Le président américain Barack Obama a donné jeudi au Pentagone une conférence de presse après une réunion de plusieurs heures avec les leaders militaires américains, compte rendu d'Eric Manirakiza.
Le président a déclaré que de grands progrès ont été faits pour affaiblir le groupe État islamique. Mais il a simultanément reconnu que ces extrémistes continuaient de poser une menace alors qu'ils changent de tactique pour recruter et entraîner de nouveaux membres et encourager les attaques par les loups solitaires. Monsieur Obama s'est engagé à lutter de manière agressive sur tous les fronts contre cette menace.
Suite de notre série sur les familles présidentielles africaines, aujourd'hui le Bénin, 4 mois après son élection à la tête du pays, l'homme d'affaires Patrice Talon fait face déjà à des mécontents tant au sein des populations que de la classe politique. Certains reprochent au président béninois une gestion cavalière sans boussole et axée sur la recherche de ses intérêts personnels et de ceux de ses proches. et cela seulement après un peu plus de 100 jours au pouvoir. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Il aura fallu qu'un seul conseil des ministres pour que la vague des mécontentements se lève, prête à emporter dans ses flots le chef de l'État nouvellement élu et qui le 6 avril dernier a prêté serment sous les vivats et les acclamations du peuple désespéré mais confiant en l'avenir. Mais au premier conseil des ministres, les décisions tombaient et faisaient tant d'heureux que de malheureux. La suspension des concours frauduleux, les nominations de certains artisans, de la victoire du chef de l'État, la résurrection de certaines sociétés de gestion du coton appartenant jusqu'à un passé récent au président de la République et dans lesquels plusieurs milliards ont été investis suite à une décision prise en Conseil des ministres en suffit pour faire déchanter certains. C'est le cas d'un certain Lord Rouenou qui s'est déclaré opposant et qui, à travers des sorties médiatiques et autres, tient des propos bien corsés sur la gestion de l'équipe pour Lord Rouenou. L'homme d'affaires est juste venu remettre ses affaires à flot.
Le chef d'État donc a trouvé bon d'envoyer 48 milliards dans le coton alors que les deux entreprises qui s'occupent donc du coton, l'AIC et Sodeco, ces entreprises-là sont très proches du président Talon. Il se retrouve là, il est le président du conseil d'administration jusqu'à hier de l'AIC. C'est vrai, il a dit dans le journal Le Monde qu'il a cédé ça à ses enfants. Ses enfants, c'est encore lui. Et donc, on n'a pas apprécié ce fait-là. Donc, je pense qu'il est aujourd'hui dans une posture de juger parti. Je pense que le peuple doit donc s'apprêter à faire la lutte avec nous.
Il sera rejoint dans son élan par un autre jeune connu pour avoir milité aux côtés du gouvernement défunt. Le Bénin serait, selon ses dires, devenu un État totalitaire.
Nous avons un gouvernement qui navigue à vue. Nous avons un gouvernement qui est sans vision. Nous avons un gouvernement qui est sans priorité. Parce que diriger un pays, ça se prépare. Quelle est la boussole aujourd'hui de notre gouvernement? Plus de 3 mois après, le gouvernement n'a pas un programme de développement. Sur quelle base les populations vont évaluer l'action gouvernementale si le gouvernement n'a pas un programme de développement? C'est ça qui explique la navigation à vue dans tous les domaines. Le poids est complètement tombé. Nous demandons donc au gouvernement de prendre ses responsabilités, de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Mais du côté des proches du chef de l'État, on préfère se garder de répondre à ce genre de provocation, guidée selon eux plus par le désir de se venger d'une déculottée dans les unes que d'une volonté de construire et de participer au développement national.
Je veux vous faire remarquer que le président Talon est un pur produit du secteur privé. Premier élément, fondamental. Donc c'est quelqu'un qui a appris à être rationnel. Il n'a pas appris à gaspiller les ressources. C'est ça d'ailleurs qui a fait qu'il a réussi. Donc je le vois déjà venir transposer le système privé fondé sur la rationalité, la rigueur dans le système de gouvernance publique.
En attendant une opposition fiable pour seconder la veille citoyenne qui se fait par la société civile, les Béninois continuent de croire que Patrice Talon conduira le bateau bénin à bon port, même si certains ont perdu l'espoir. De Cotonou, Ginette Le Adonné pour VOA Afrique.
Actualité américaine, la ville de Miami dans l'état de Floride fait face à ses premiers cas de contamination autochtone par le virus du Zika. Les habitants s'inquiètent, mais officiellement, tout est sous contrôle. Orzuma Compaoré.
Miami est la première ville américaine à enregistrer des cas de personnes infectées localement par le virus du Zika. C'est dans le quartier de Wynwood, très fréquenté par des touristes et des jeunes, qu'il y a une concentration de la contamination. Quelques commerçants jouent déjà la carte de la prudence et ont suspendu leurs activités pour protéger leurs clients et employés. Le comté de Miami-Dade a pulvérisé des insecticides dans la zone touchée au sol et par voie aérienne. Des sprays anti-moustiques sont distribués aux visiteurs et une page internet permet aux passants de signaler des endroits où ils voient de l'eau stagnante, propice au développement des moustiques. Le maire de Miami, Thomas Regalado, va même jusqu'à affirmer que Wynwood est, je crois, l'endroit le plus sûr du sud de la Floride, puisque la zone a été traitée. Mais elle note cependant que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'a pas émis de restrictions pour Miami.
Pour terminer, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Rio, aujourd'hui au Brésil. Les détails avec Alvaro Andrade sur place.
Nous voulons proposer la plus grande fête jamais organisée dans ce pays, dit Daniela Thomas, co-directrice artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. L'organisation ne sait pas encore si le roi Pelé allumera la vasque olympique. Le gouvernement a annoncé hier plus de 80 millions de dollars pour la cérémonie d'ouverture. 3 milliards de personnes vont suivre l'événement à la télévision. Les Jeux olympiques demandent une organisation titanesque qui suscite des questions alors et en proie à une grave crise économique et politique. Ken Alvaro Andrade, Rio de Janeiro, Brésil.
Les autorités à Rio ont promis la plus grande fête au monde au stade Macarena ce soir pour célébrer sur un air de samba l'ouverture des premiers Jeux olympiques organisés en Amérique du Sud. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.